Il y a des longs cours plus longs que d'autres. Il y a des longs cours qui commencent avant qu'on les écoute. Et puis, il y en a certains qui remontent carrément à notre enfance, qui remontent de façon très curieuse dans le passé. Aujourd'hui, nous recevrons Jean Adorn. C'est ce qu'on appelle dans le langage un nez célèbre. C'est une personne qui est naturellement dotée d'un odorat un peu plus vif. Et curieusement, ces gens-là finissent par travailler en général dans la parfumerie, ce qui est le cas de Jean Adorn. Mais ce sont des gens, et je l'ai remarqué, c'est pour ça que je parlais d'un long cours qui avait déjà commencé il y a un moment. Tout à l'heure, on vient de déplacer, nous sommes dans un studio, vous le savez, on vient de déplacer le cendrier, ce qui prouve que tout à coup, on a quelque chose qui nous chatouille au fond du nez et que on préfère l'imagination, on préfère l'audace, et si on a ce genre de qualité, immédiatement, enfin moi, je rêve, je commence à décoller, je vois cet océan de fleurs, je pense à des racines, je pense à... Et il y a des choses aussi comme les sécrétions animales, il y a des herbes, il y a des huiles. Et puis, aujourd'hui, c'est vrai, on le sait, il y a toutes ces odeurs artificielles. Et je pense qu'il faut des milliers d'ingrédients pour pouvoir composer, pour disposer véritablement de ce qui deviendra un parfum, pour disposer et placer. C'est carrément une sorte de puzzle. Et il faut surtout, je crois, posséder quelque chose que j'ai ressenti simplement dans le langage de notre interlocuteur. C'est comme pour un architecte, un peu le sens de l'équilibre. Et c'est la chose qui me fascine le plus, parce que, au fond, voyager avec une palette qui est composée d'un millier de parfums, c'est aussi tout à coup se retrouver dans un pays où pousse le lilas, cette fin de printemps où a poussé le muguet. Et puis, on parlera de violette, on parlera de rose. Alors, je pense que mélanger ces ingrédients, je sais par exemple qu'il faut plusieurs centaines d'ingrédients pour avoir simplement le parfum d'une rose. C'est-à-dire reconstituer le parfum d'une rose. Jean Adorn.
C'est exact. La nature est très bien faite. Elle fait les choses d'une manière extraordinaire. Et d'ailleurs, on s'explique assez peu comment il se fait que la rose arrive, puisque vous citez la rose, arrive à produire plusieurs centaines et même plusieurs milliers d'ingrédients différents pour donner le parfum final. On ne sait pas très bien. Et on pense peut-être qu'à l'origine, et c'était peut-être pour donner un petit plus dans la nécessaire action des insectes pour la pollinisation. Mais on n'en est pas absolument sûr. La couleur avait une grande importance, mais est-ce que la couleur associée au parfum n'a pas une importance encore plus grande et facilitait cette fameuse pollinisation?
Lorsque vous êtes devant la rose, on pourrait prendre l'exemple de la rose. Voyager avec une rose, à l'instant où je pense à la rose, vous le savez, je suis toujours devant une carte du monde. Nous avons, en dehors de Longcourt, évoqué nos voyages, enfin les vôtres en tout cas. Et au fond, la rose, c'est peut-être la fleur la plus mythique qui soit. En pensant à la rose, je pourrais vous faire un long cours complet sur Damas, par exemple, ou la Perse. On pourrait, par exemple, se retrouver dans des jardins, parce que le mot jardin, c'est quelque chose de fabuleux. Et instantanément, je crois, dans nos esprits, vous voyez ce parterre, il y a un peu d'eau, c'est vrai, mais il y a tout à coup cet incroyable amoncellement de roses, parce que la rose est souvent plurielle, et je crois qu'il y a des choses quand même assez exceptionnelles. Moi, je me rappelle de souvenirs comme cela de lecture. J'aime bien retrouver, je sais pas, la cuisine de l'époque romaine, par exemple. C'est aussi un voyage, hein, puisqu'on parle d'odeur, puisqu'on parle de parfum. Le goût, l'odeur sont des choses qui sont très proches. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a quand même des circonstances assez exceptionnelles. Lorsque je parlais de Damas, je parlais de la Perse, je sais qu'on enterrait, par exemple, des pots entiers plein de roses, simplement pour pouvoir les utiliser dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, par exemple pour un repas. Pensez qu'on va jusqu'à à en faire des plats, c'est-à-dire ouvrir une rose de manière théâtrale pour en faire un mets. Là, maintenant, je viens d'utiliser involontairement un peu tous les sens. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le parfum, il y a la vue, il y a cette couleur, et puis il y a le goût qui est intervenu. Tout à coup, on est au toucher et l'on regarde tout cela. C'est ce qui m'intrigue le plus. Le parfum, et j'aurais de la peine à faire un long cours complet sur le parfum comme vous allez le faire, le parfum, je crois que c'est véritablement le mot magique par excellence qui manque de mots.
C'est bien vrai. Mais vous parliez du long cours qu'on peut faire au sujet de la rose. La rose elle-même a fait un immense voyage. Son origine peut être située du côté de l'Inde. C'est probablement dans l'Inde que l'on a vu apparaître il y a fort longtemps les premières roses, qui n'étaient d'ailleurs que ce que nous connaissons maintenant sous le nom d'églantier, en fait. Et elle a voyagé à travers la Perse. Elle s'est établie en Perse, les cultures, on en cite déjà des cultures très anciennes. Et puis elle est venue en Europe avec les croisés. Thibault, le comte de Champagne, avait, paraît-il, ramené cette fleur qu'il jugeait extraordinaire. Mais comme il ne se dépêchait pas, on ne faisait pas les voyages comme on les fait maintenant, il s'était arrêté à Chypre. Puis il s'est surtout arrêté au nord de la Bulgarie. Et il est un des responsables de la fameuse industrie de la rose en Bulgarie, qui entoure les villes de Kazanlik et de Plovdiv. Et cette fameuse Carnare, la vallée des roses, qui est encore actuellement une des sources principales de la rose parfumerie, en tout cas d'une rose parfumerie. Et donc elle est venue jusque là, au nord de la Bulgarie, parce que les croisés se sont un peu attardés. Et par les Arabes, elle est venue jusqu'en Espagne et jusque dans le midi de la France. Elle est à elle seule un voyage.
On peut le refaire. Vous évoquiez les croisés. J'ai repassé mentalement toute l'Afrique du Nord. Il y a dans la rose aussi quelque chose de sec. C'est très curieux. Ce besoin d'eau, là vous avez parlé des musulmans, c'est encore une image très musulmane, parce que passer Gibraltar, se retrouver en Andalousie, pénétrer dans un de ces patios, et c'est vrai que le rosier, tout à coup, le vieux rosier, parce qu'au fond, nous sommes un peu abreuvés en ce moment d'hybride. Et surtout, d'hybride. À partir de 1800, si ma mémoire est bonne, il y a eu cette avalanche de roses thé, comme on les a appelées. C'est-à-dire ces roses japonaises plus délicates, mais vous le savez aussi certainement, sans parfum presque, par rapport à cette...
Pas sans parfum.
Non.
Un parfum, mais il n'est pas tout à fait le même. Il est moins, si je puis dire, moins sucré. Il est plus sec dans un certain sens. Il ressemble bien d'ailleurs à une feuille d'as, comme on a l'habitude de sentir d'une tasse de thé. Et je dois dire que ce sont tous les coupages qu'on a pu faire entre ces roses qui conduisent aux roses modernes, qui sont certes très belles, mais a-t-on vraiment gardé le parfum d'origine ?
Est-ce qu'on revient justement, on ne va pas faire du jardinage forcément, mais je trouve que ça évoque beaucoup de choses, parce que je suis sûr qu'en parlant maintenant, chaque personne qui nous écoute a sa rose dans son cerveau, mais a surtout son parfum de rose dans sa tête.
C'est incontestablement, parmi toutes les fleurs, celle qui est le plus facilement évocatrice pour tout le monde. On parlait de rose à n'importe qui, il a immédiatement en présence cette construction florale que représente la rose, dont les pétales sont toujours multiples de 5, ça c'est une parenthèse.
Ça c'est vrai.
Sont toujours multiples de 5, et on a toujours immédiatement à l'esprit une rose, en tout cas celle qui est sa préférée.
Pourquoi pas, la rose est un voyage. Parce qu'instantanément, nous l'avons placée sur la carte. Vous avez débuté par la Perse. Moi, j'avais envie de traîner un peu dans ce silence de l'eau. La musique elle-même nous évoque un peu ces jardins andalous. Il y a quelque chose de riche, de présent. Et il y a quelque chose de très près du cerveau lorsqu'on parle de la rose. Et puis, c'est quand même un des thèmes, on le disait aussi, les plus mythiques. Je pense à Jean Cocteau, par exemple. Une simple histoire d'une fille, d'une femme qui, par exemple, dans La Belle et la Bête, ne veut qu'une rose, la plus grande des richesses. Et au fond, à l'heure des souvenirs, bizarrement, moi je trouve que ce qui nous reste toujours sur une île déserte, ou dans l'endroit le plus incroyable, c'est un parfum.
Et peut-être un parfum de rose.
Pourquoi pas ?
En tout cas, c'est celui vers lequel on serait le plus facilement attiré. Il n'y a qu'à voir le nombre de légendes qui courent sur la rose. Et vous parliez tout à l'heure des mets à la rose. C'est clair que tout le monde sait que le nougat bulgare Et le ratatloukoum, là, c'est fait très souvent avec la rose. Le tabac est aussi parfumé à la rose. Toutes les cigarettes orientales sont parfumées à la rose. Mais il y a pire, ou mieux, enfin ça dépend dans quel sens on le voit. Il y a eu un original dont je n'ai pas retenu le nom, qui, au début de ce siècle, avait décidé de faire un souper de rose. Tout était à la rose, tous les mets étaient à la rose.
C'est vrai que ça devient déjà écœurant, hein, simplement en le disant.
Je ne sais pas, vous savez, je ne peux pas le dire. Récemment, j'ai fait un concours de roses, je m'occupe un petit peu en tant que jury pour l'odeur des roses. J'ai fait un concours de roses avec d'autres à Nantes, et on nous a servi effectivement un repas entièrement conçu par un cuisinier de l'endroit, entièrement conçu à base de roses. Je dois dire qu'on a reconnu la rose vraiment au goût que dans les desserts.
Parce que nous sommes habitués au côté sucré de la rose ?
Non, il y avait des mets de poisson.
Ah d'accord.
Faits avec la rose en guise de garniture, si vous voulez. Mm-hmm. Mais le goût de la rose ou l'odeur de la rose ne se percevait que difficilement. Tandis que le dessert, dans le sucre, c'est des roses confites. On était déjà plus près de quelque chose qui était sensible au goût.
En parlant toujours de l'histoire et du voyage, on pourrait rester en Afrique du Nord, dans un endroit confortable à l'époque romaine. On pourrait glisser...
Pourquoi pas à Timgad ?
Pourquoi pas ? Ou simplement lors d'un banquet avec Cléopâtre. Enfin, les Romains étaient véritablement obsédés, d'ailleurs, par ces roses. Et ils les utilisaient si... Enfin, je me rappelle d'évocation, de cérémonies publiques, de banquets. Et ce qui m'a toujours intrigué dans l'idée de la rose, et je parlais d'écœurement à cause de cela peut-être, c'est que à l'instant où une odeur nous monte au nez, c'est-à-dire complètement, j'imagine des fontaines, par exemple, qui glougloutent et qui ont...
Il y a eu le cas de fontaines d'eau de rose à Montpellier. Ils avaient fait ça parce que la première cité parfumistique au monde n'a pas été grasse contre. Quoi qu'on le pense, c'est Montpellier. Mmh. Et à Montpellier, il y avait donc une faculté de médecine déjà au Moyen-Âge très importante, faculté de médecine et de drogue, quoi, ce qu'on pourrait appeler pharmacie. Et ils avaient fait des essais avec une fontaine qui marchait avec l'eau de rose.
Ça me rappelle, j'ai pris quelques notes parce que c'est vrai que je suis en train de terminer, je n'ai pas encore terminé le livre des sens, qui est un ouvrage qui est paru chez Grasset, pourquoi ne pas le nommer, et qui parle naturellement en numéro 1 des parfums, c'est-à-dire de l'odorat. Et il y a cette description absolument incroyable d'un banquet où Néron aurait fait construire, enfin, il aurait placé, si vous voulez, dans ces fameuses tables de banquet. On se voit allongé, on est là, de circonstances... bien drapé, et il a fait faire des sortes de conduits d'argent sous les plats, de manière à ce qu'entre les plats, eh bien, on puisse justement ressentir, s'étourdir en fait de ce parfum. C'était de nouveau de la rose, et puis il y avait cette étrange habitude aussi qui permettait d'avoir des... Ça, c'est plus difficile à imaginer parce que c'est un peu dantesque, comme ça, quelque chose de fou. On avait aménagé dans les plafonds romains des endroits pour laisser tomber des pétales de rose. Et c'était tellement impressionnant, les dépenses qu'on faisait en pétales de rose, qu'on a un texte que j'ai retrouvé où on dit qu'un invité est mort sous une averse de pétales de rose lors d'un banquet romain.
Belle mort.
Oui, je trouve. Et puis il y a ce côté, une fois de plus, il y a le toucher en même temps. La rose évoque aussi, c'est peut-être pour ça qu'elle est si rare en fait.
À cause du velouté de son pétale.
Par exemple.
Oui, c'est vrai.
Couleur, velouté, oui, tous les sens y sont.
Tout y est.
Décrivez-moi votre rose.
Ma rose. Ma rose, malheureusement, on ne la trouve plus. C'est une rose ancienne, dont d'ailleurs j'ignore le nom. J'habitais à ce moment-là en France et par hasard, à une des extrémités de mon petit jardin, poussait un rosier dont je n'ai jamais connu le nom, mais qui embaumait à, qu'est-ce qu'il faut dire, 10-15 mètres, on sentait déjà la rose. Et vraiment une odeur très puissante, très fraîche, très extraordinairement entêtante. Et cette rose avait une couleur cyclamène à peu près, comme ça, mais très, très, très charnu, très fourni. On aurait dit un véritable jeu, comme une sorte d'artichaut, vous voyez, tellement...
Très serré.
Extrêmement serré, qui s'épanouissait toujours là, à peu près aux mêmes dates, c'est-à-dire au mois de mai, vers le 10-15 mai, pour se faner assez rapidement. Et elle n'était pas remontante. Je n'ai jamais su de quelle espèce elle était, parce qu'à dire vrai, à l'époque, j'avais d'autres soucis que de m'intéresser à la culture de la rose. J'en percevais, j'en appréciais le parfum, mais ça serait maintenant, j'en aurais coupé une pour savoir de quoi il s'agissait.
Décrivez-moi ces 15 mètres de voyage jusqu'à la rose, parce qu'au fond, c'est peut-être ça qui intrigue le plus.
Vous percevez d'abord l'odeur la plus fraîche, la plus, ce qu'on peut appeler le pétale de rose, une espèce d'odeur douce, mais en même temps avec une toute petite touche fruitée. Et puis plus on s'approche, plus cette fameuse rose avait quelque chose à voir avec la violette, quelque chose de cette note fruitée, peut-être qu'on peut dire un peu confiture, qui se substituait, ou plutôt qui complétait la première odeur, lui donnait plus de volume, plus de chaleur. Et encore, chaleur, c'est pas le vrai mot. Disons, je préfère le mot volume, ou plus de rondeur, dans un vocabulaire que vous savez comme moi, tellement subjectif. Mais il lui donnait plus de rondeur, enfin, l'habillait en quelque sorte. Et on finissait sur la fleur pour s'apercevoir que toute cette odeur était, dans sa subtilité, absolument harmonieuse, qu'il n'y avait aucune fausse note, et que si on avait pu la dessiner, on aurait dessiné un parfait cercle.
Quel jardin, là, le cercle final, avec le soleil, la température,
si vous voulez.
On y est.
Voilà.
C'est-à-dire, c'est un jardin
encore
en France.
Encore qu'elle sentait beaucoup mieux le soir, une odeur différente. Disons, beaucoup mieux, non, mais en tant que parfumeur, si vous voulez, le soir, c'était plus complet. Le matin, c'était la rosée, c'était la fraîcheur, d'ailleurs. Quand on essaye de reconstituer ce genre d'odeur derrière sa balance avec ses petites fioles de son orque à parfum, il y a des termes génériques. On parle de certains produits que l'on dit c'est la fraîcheur de la pétale, du pétale de rose au matin. Mais je crois que c'est parfaitement subjectif. Mais c'est donc la rose que j'ai préférée. Et j'en ai jamais retrouvé d'autres semblables. Dans mon jardin actuellement, j'ai certaines roses qui sont magnifiques. Je dois dire, notamment, si on peut donner un nom, la fameuse Madame Meillan, qui commence jaunâtre pour finir blanche à bord rosée, et qui a une odeur extraordinaire, et c'est une rose très très rose. Mais je dois dire que depuis, je suis donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, jury de différents concours de roses, et notamment celui de Genève, qui a lieu toutes les années, au fin juin, à la roseraie du Parc Lagrange. Eh bien, on voit passer tellement d'hybrides actuellement, tellement d'hybrides, qu'on ne sait plus vraiment quelle est la plus belle. Elles sont toujours toutes plus belles les unes que les autres. Et j'ai discuté avec un très grand rosieriste pour lui dire, si vous faites des hybrides de couleurs, pouvez-vous hybrider avec idée finale le parfum ? Réponse, impossible. Le gène du parfum n'est pas encore maîtrisé dans la rose. C'est difficile à maîtriser parce que, réponse toujours de ce rosieriste, si vous hybridez deux roses sans odeur, vous avez une magnifique rose finale, mais elle sent peut-être quelque chose. À ce moment-là, on peut dire peut-être qu'en matière de génétique, c'était peut-être un gène, sauf erreur, on appelle ça récessif, c'est-à-dire qui n'apparaît pas d'un premier coup, n'est-ce pas, mais qui apparaît lors de la réunion de deux gènes semblables. Il se peut. Mais on n'a jamais encore fait ces recherches-là. Par contre, en hybridant une odeur de rose, une rose à odeur avec une rose qui n'en a pas, on n'est pas sûr du tout d'avoir un parfum à la clé. Et pourtant, la fameuse rose, commercialement parlant, si elle est odorante, c'est mieux.
Vous venez de passer comme cela d'un sujet à l'autre. On a l'impression d'égrener un chapelet. Enfin, moi, j'appelle ça en général un rosaire, bizarrement. Et savez-vous que le rosaire d'origine était fait de 165 pétales de rose roulés. Et qu'on tenait, en fait, je crois...
J'en ai vu en Espagne, comme ça.
Mm-hmm, on les tient avec du noir de fumée.
C'est ça. Ouais.
Et ça leur donne ce ton assez curieusement foncé. Enfin, vous êtes en Espagne, c'est vrai. Saint-Dominique vient d'inventer le rosaire.
Mais vous savez, on parlait de parfum. Du parfum d'une fleur. On ne sait donc pas pourquoi, je vous ai dit, pourquoi la rose, enfin certaines fleurs sont parfumées. Mais il y a une chose qu'il faut dire, et je change totalement de fleur, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce que je voulais, de ce qu'on peut chercher, et peut-être qu'on a une voie de recherche dans ce sens. La lavande, c'est une fleur magnifique, par surtout son, lorsqu'elle est assemblée, lorsqu'elle est en chant, lorsque c'est magnifique, c'est d'un bleu soutenu, bien connu, enfin, etc. La lavande possède un principe odorant qui est, elle en est d'autant plus riche qu'il a fait plus froid. Si je voulais vulgariser la chose, je vous dirais que c'est une sorte d'antigel. Et la réaction de la plante, c'est de produire un corps odorant qui, probablement, la sauve de difficultés dues au froid. Et c'est la raison pour laquelle la vraie lavande ne pousse qu'en altitude.
C'est une belle image et j'aimerais juste que vous me repiquiez la première rose, celle que vous avez beaucoup aimée sur l'échiquier français. Où a-t-elle poussé ?
À Champagne au Mont-d'Or, tout près de Lyon.
Voyage, un long cours, parfumé aujourd'hui, Jean Adorn. Jean Adorn a un nez que certains d'entre vous connaissent peut-être, si vous êtes du côté de Versoix, si vous êtes Genevois, si vous êtes dans le monde entier, parce qu'en fait les parfums voyagent et continuent à voyager terriblement. Et je pense quand même qu'il y a des choses assez curieuses. Moi je remarque que, ça c'est le commun des mortels qui vous parle, je suis très attaché à l'idée du parfum, parce que je crois que c'est quelque chose, je le remarque chez les animaux que je côtoie, enfin il y a des phénomènes, on pourrait en parler pendant des heures, de l'odorat, mais il y a quelque chose d'assez curieux dans les tendances, alors carrément commerciales d'aujourd'hui, dans notre monde, et je trouve que l'art est le reflet d'une époque, mais le parfum aussi. Le parfum, enfin si on suit l'évolution des parfums, et je n'ai jamais tenté d'en faire l'histoire, mais on est déjà en train de la faire en parlant de la rose, et en remontant dans le temps, eh bien on voit qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des choses assez curieuses. On est une époque assez difficile, et l'idée de base dans les noms, par exemple, des parfums, moi j'ai ressenti, j'ai un peu regardé ce qui se trouvait sur les rayons des parfumeries, il y a une idée de danger, il y a quelque chose de... Il y a tout ce qui est interdit, il y a presque un parfum de névrose, et ça, je trouve que c'est quand même assez impressionnant de voir que des promoteurs commencent à utiliser des mots, je sais pas, on connaît poison, bien sûr, on peut citer des noms, mais il y a presque l'idée de dire décadence, de dire mon péché, de dire indiscrétion.
Oui, ça remonte il y a longtemps, ça.
Oui, sûrement, mais ça revient très fort aujourd'hui. Ça revient très fort.
Mais vous savez, il y a un problème qu'il faut souligner, c'est qu'il y a tellement de noms qui ont été déposés, sans même que le parfum n'ait jamais été concocté, ni soit jamais sorti. Tellement de noms qui sont sortis qu'on arrive à ne plus rien trouver. Alors il faut sortir des sentiers battus, et c'est clair que lorsque un succès se fait dans un certain type de nom, il y a immédiatement la balance. Poison dont vous avez parlé était fait parce que le succès de l'opium était tellement énorme qu'il fallait trouver quelque chose qui soit dans le même style. Le style Mon Péché, il y a eu des choses encore beaucoup plus extraordinaires. Vous avez Worth, par exemple, qui avait fait toute une série « Je reviens vers toi dans la nuit, vers le jour ». C'était toute une série de noms qui faisaient une phrase. On a tout épuisé. Alors maintenant, on essaye de sortir des choses vraiment étranges. Et vous avez, par exemple, certains noms actuellement qui sont simplement des sortis directement de l'ordinateur. On met un certain nombre de lettres, on les brasse, et ça vous donne, je ne sais pas moi, deux, trois fois. C'est la fameuse histoire... une fois deux, fois trois, fois quatre, etc. Vous sortez avec 300 combinaisons, 400 combinaisons, puis vous cherchez la meilleure. Isati, c'en est un exemple.
Si vous deviez non pas jouer sur un ordinateur, or je crois que les parfums peuvent aussi se faire par ordinateur aujourd'hui.
Vous ne parlez pas de choses qui fâchent.
C'est pour ça que je vous le dis, parce que je sais que ça fâche. Il y a une quinzaine d'années, on m'a dit, mon pauvre ami, votre métier, un monsieur important de la recherche, m'a dit, c'est fini.
En l'an 2000, tout se fera par ordinateur. Mais vous trouvez que la musique d'ordinateur est belle, qu'elle est créative? Vous faites créer une machine, c'est pas vous. Est-ce que vous recréez vraiment quelque chose? Est-ce que votre atmosphère artistique est prise parce que vous avez aligné des sons synthétiques?
Non, vous êtes tout à fait dans la ligne
vous
de
l'encours. Vous direz qu'on en est aussi aux images synthétiques, les images de synthèse.
C'est vrai, mais vous êtes tout à fait dans la ligne de l'encours parce qu'au fond, si on nous écoute maintenant, c'est justement parce que ce parfum est dans l'imagination. C'est-à-dire, cette subtilité-là, elle n'a rien d'artificiel, au fond.
Mais à l'heure actuelle, tout le monde pense à une rose. Je suis sûr que tous ceux qui nous ont écoutés ont vu leur rose, et soit qu'elle soit dans un vase, quelque part dans leur
mémoire.
Maison, mais elle est aussi surtout dans leur mémoire. Surtout dans leur mémoire.
Là, j'aimerais que vous m'expliquiez, parce que scientifiquement parlant, c'est encore un voyage dans le temps. C'est quelque chose... J'ai une formation d'anthropologue et c'est bien involontaire, mais ça devient très vite une manie de remonter aux origines des choses. Et au fond, le parfum, c'est la chose que j'appelle originale ou originelle, si on préférait, par essence. C'est-à-dire qu'au fond, au moment où l'homme est sorti de l'eau, d'ailleurs le parfum ne fonctionne qu'avec un liquide, et puis au moment où il était encore...
Ah,
oui, je trouve qu'on a toujours cette impression...
C'est votre dernière réflexion qui me fait sursauter.
À cause du liquide ?
À cause du liquide.
Vous pensez
c'est un transfert de liquide, c'est vrai. Mais on a aussi des corps qui sont cristallisés, qui se transmettent sous forme cristallisée.
Ah, ça,
mais l'homme
ça,
dont
sûrement.
Vous parlez n'a dû découvrir le parfum que le jour où il a fait son feu et qu'il a par hasard coupé une branche d'un arbre qui contenait une huile essentielle. Et en le faisant brûler, il a eu une fumée, il a dit « Tiens, c'est étrange ». Ça lui a même paru tellement étrange qu'il en a déduit que c'était quelque chose de divin.
Mais plus en arrière, je suis très troublé par les enfants. Les enfants voyagent par l'odeur de façon complètement différente que nous le faisons. C'est-à-dire qu'on dirait qu'ils sont encore sans culture par rapport à cela, ce qui fait que toutes les odeurs sont agréables pour eux. Et ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce qu'un animal fonctionne un peu de la même manière. Ce que nous appelons parfum est déjà élitiste. Et au fond, quand c'est on sûr. Étudie de manière civilisée les civilisations, on remarque que, je sais pas, les Maasai adorent, par exemple, une odeur qui ressemblerait plutôt à notre fond d'écurie.
Je vais abonder dans votre sens. Il se trouve que je participe à un atelier d'infirmes moteurs cérébraux ici à Genève, avec la Fondation Clairbois, simplement pour essayer d'éveiller des gens qui ont de gros problèmes, essayer de les éveiller à l'odeur. Eh bien, ce qui les intéresse, ce sont des odeurs plus corporelles, donc eux, ils sont dans l'état primitif.
Si Nougaro pouvait chanter une fleur, il pourrait chanter la violette, par exemple. Moi, j'ai un petit côté italien parfois, je dirais plutôt que Parme serait la ville de la violette. Eh bien, pénétrez dans cette ville de Toulouse, chercher une violette et ressentez cette odeur. La violette, qu'est-ce que je dirais ? Je ne suis pas un nez, mais je penserais quand même au sucre brûlé. Je penserais à des choses... Bizarrement, j'ai toujours pensé, en voyant une violette, et mon Dieu, c'est la violette de Parme qui n'est pas parfumée comme la violette dont on parle, et particulière, c'est le velours aussi. Et puis, je dirais qu'il y a du citron aussi. Ça, c'est mon opinion. Il n'y a rien de plus difficile que de décortiquer une violette.
C'est extrêmement intéressant ce que vous dites. Citron, vous dites.
Oui.
Or, c'est curieux d'ailleurs, mais c'est extrêmement intéressant, je vais vous dire pourquoi. Parce que le principe odorant de la violette, passons sur son nom technique, ça n'a pas l'importance, mais je le donne quand même, c'est
chiche.
Lionone.
Oui.
Une ionone.
Ah, on pourra peut-être en parler, parce que ça me
fascine. Une ionone qui est le principe odorant de la violette, c'est ça qui sent cette odeur un peu confiture.
Mm-hmm.
Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que la matière première pour reproduire synthétiquement cette ionone, parce que ça a été un des premiers corps de synthèse de la parfumerie, pour la simple raison que traiter la fleur de violette donnait des produits complètement aberrants qui n'avaient rien à voir avec la vraie violette. Et c'est pour ça que les vraies violettes ne donnent pas d'huiles essentielles. Les odeurs de violette de la parfumerie sont essentiellement reconstituées. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que cette fameuse ionone, principe indissociable de l'odeur de violette, puisque ça en est le corps, est produite synthétiquement à partir d'un corps extrait de l'essence de citron. C'est très intéressant. Comment est-ce que vous êtes arrivé, alors qu'on ne sent plus le citron, mais vous êtes arrivé inconsciemment à trouver la source qui produit l'odeur de violette? On passe par un constituant qui sent le citron.
Là, je suis en train de me découvrir un nez, faites attention.
Ah oui, je vous en prie. Je ne donne plus de leçons, mais je pourrais recommencer.
Mais Lionone, oh oui, ça, je crois qu'on en prendrait tous très volontiers à vous écouter, mais Jean Adorne, je sais aussi que Lionone court-circuite l'odorat. Et ça, ça me fascine complètement parce que je me rappelle, je devais avoir 6 ans, je me vois encore en train de préparer un bouquet de violettes pour ma mère. C'était la fête des mères, ou dans ces régions-là, enfin pour une fête d'occasion. Et oui, ça doit être pour la fête des mères. Elle est assez tôt dans la saison pour que ce soit possible d'avoir quelques pâquerettes et quelques violettes en main. J'habitais la campagne et j'ai commencé à pleurer parce que mes violettes ne sentaient plus.
C'est vous qui ne sentiez plus.
Bien sûr, mais c'est justement le propre de Lionone. Je l'ai appris il y a très peu de temps. D'ailleurs, lorsque
ça paralyse la sensation olfactive, ou ça la détourne en tout cas.
Comment est-ce qu'on peut interrompre un voyage olfactif?
Qu'entendez-vous par là?
Comment est-ce qu'on peut interrompre ce voyage? Parce qu'en fait, la fleur est toujours là, le parfum est toujours
oui,
là, et mon nez ne le sent
c'est
plus.
C'est une réaction probablement de la muqueuse olfactive qui se défend peut-être contre une agression. Ça, on n'a pas encore maîtrisé. Pourquoi? De même que si vous associez ionone et musc, les deux odeurs se détruisent.
Parce que quand on sent une violette, il suffit qu'on la laisse quelques secondes, quelques minutes, qu'on revienne et le sent de nouveau. Bon, alors, tout le problème est à nous.
Je pense une saturation. C'est une saturation
simplement
de la muqueuse olfactive qui a du mal. Peut-être que c'est dû à la constitution chimique de la violette.
J'ai remarqué ça aussi, il y a quelque chose, on parlait de citron, je trouve que ce sont des voyages, les mots qu'on utilise pour décrire un parfum, c'est toujours quelque chose qui court-circuite en même temps.
Le jaune
là, j'ai eu des deux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce qu'on appelle la lime,
le
citron vert
celui des Caraïbes et celui
en Amérique latine.
De Sicile.
Oui, et puis il y a aussi quelque chose de très curieux. Et ça, je crois que ça évoque très profondément la violette, c'est ce petit rien de pourriture. Ça m'arrive de mâchouiller, alors ça je pense que c'est artificiel, puisque vous venez de nous le dire, ces cachous qui ont ce goût de violette, des fois un peu trop prononcé d'ailleurs.
Oui, mais ça c'est Lionone.
Et il y a ce parfum un peu de pourriture, quand on est saturé.
J'essaye de deviner... Oui, peut-être que ce que vous dites, j'essaye de me mettre en mémoire cette odeur de pourriture. Oui, c'est peut-être une odeur de flétrissure, je dirais plutôt.
Mm-hmm.
Et c'est peut-être fréquent dans les bonbons, les fameuses cachous bonbons à la violette, parce que c'est fait donc avec de la synthèse, compte tenu que la violette, c'est impensable d'en faire de naturel, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Vous savez, actuellement, la violette, non pas dans sa fleur, mais dans sa feuille, constitue la matière première naturelle la plus chère de la parfumerie.
Mmh.
On utilise environ 2,8 à 3 tonnes de feuilles de violette pour faire 1 kilo d'extrait.
Ça devient...
Ce qui met l'extrait à des prix prohibitifs de l'ordre de 80 000 francs du kilo.
Ça devient impressionnant parce qu'en fait, si l'odorat est le plus direct de nos sens, si je porte, c'est un voyage aussi, porter une fleur à son nez, alors terminez-moi le parcours. C'est-à-dire qu'au fond, elle est à mon nez et puis maintenant, ce sont bien les molécules, hein, les molécules de parfum qui montent dans le canal.
C'est une perte de matière. Ce n'est pas du tout, à la différence de la vision ou de le...
Donc ce sont bien des molécules.
Qui sont des vibrations, donc... des ondes sonores ou des ondes lumineuses. Là, c'est vraiment une molécule et on a pu même la photographier. Les premières expériences ont été faites dans les années 20-25 par un chimiste qui s'appelait Devaux et qui avait mis une rose, on y revient, le circuit n'est pas fini mais on y revient, qui avait mis une rose en présence d'une surface de miroir de mercure. Il a mis la rose au-dessus d'un bécher de laboratoire contenant du mercure. Et il a pu recueillir des gouttelettes de parfum à la surface du mercure. Il s'était condensé sur le mercure. Et c'est effectivement un transport d'une matière, des molécules qui s'en vont, qui vont frapper votre muqueuse olfactive, qui en principe se dissolvent dans la muqueuse olfactive. Mais le problème, et c'est là que le bât blesse dans toutes les recherches qui sont faites, encore actuellement, c'est comment se fait-il que la mémoire l'efface aussi vite? Quand vous avez senti une odeur, que vous cessez de respirer, l'odeur ne reste pas. Et pourtant, il y a eu une excitation quelque part. On en déduit que le gommage dans la muqueuse olfactive se fait quasi instantanément.
Donc, il n'y a aucune transition entre ces cils. Enfin, c'est je crois qu'il y a des chiffres incroyables.
Il y a probablement une réaction chimique qui se passe à la base, qui détermine une impulsion électrique qui est transmise aux glomérules, puis ensuite aux cellules nerveuses du cerveau, à la enregistreur, si je puis dire. Mais comment se fait-il que vous pouvez sentir une autre odeur immédiatement après? Comment ça se fait que la muqueuse n'a pas gardé l'imprès? Autrement dit, c'est un phénomène de non-rémanence qui surprend beaucoup.
Il y a quelque chose qui m'a troublé aussi. Là,
le polissage de la... Oui,
on est très près de l'endroit clé, parce qu'en fait, là, on vient de remonter dans notre nez. On est sur
un voyage dans le nez.
Oui. C'est normal avec un nez comme vous. Mais nous sommes à cet endroit clé où il y a, je sais pas, quelques millions d'endroits. Enfin, je vois pas
beaucoup
comment
moins
appelez.
Que chez le chien.
Oui, je l'ai lu l'autre jour. Je crois qu'il y en a 200 et quelques millions chez le chien et 5 millions chez nous. Les chiffres, ça parle des fois aussi. Mais ce qui m'a troublé, c'était le fait que tout ce qu'on perdait ailleurs dans les autres sens ne se perd jamais dans l'odorat, à moins qu'on l'ait complètement perdu. Mais c'est le côté, la faculté extraordinaire de renouveler nos neurones dans cet endroit-là. Et puis, j'ai appris aussi. Et ça, c'est peut-être le voyage humain dont je parlais tout à l'heure, cette sortie de l'eau, ce côté rampant, et petit à petit, on se dresse, le nez change, parce que tout à coup, on voit le monde dans lequel on vit, et pour la première fois, on voyage, on est sorti de l'élément, et c'est cette distance extraordinairement courte qui fait peut-être même que l'odorat, c'est un peu notre cerveau lui-même. C'est-à-dire que il y a des scientifiques sur le plan anthropologique qui déclarent que la naissance de notre bulbe, c'est en même temps l'endroit de l'odorat. Le premier sens deviendrait le début ou le cerveau.
C'est peut-être d'ailleurs
premier.
Celui qui est le plus nécessaire à l'homme, en tout cas qu'il a été aux origines.
J'ai appris, avant de vous rencontrer, c'est vrai que nous nous sommes vus la dernière fois lors d'une très belle exposition, à l'ouverture de cette exposition sur le peintre, le sculpteur, le parfum à Confédération Centre. C'est vrai que tout le centre est embaumé, mais... c'est là que j'ai appris des choses qui sont peut-être plus vulgaires, mais le mot vulgaire va bien à l'odorat aussi parfois. C'est que, par exemple, si des femmes vivaient dans un seul endroit, dans un couvent ou entre sœurs, avec une promiscuité extrêmement serrée, le parfum de la transpiration des femmes, et ça doit être prouvé scientifiquement parce qu'on l'a fait entre transpiration reportée et alcool au lieu de transpiration, toutes les femmes par exemple se remettent à l'heure pour leur menstruation. C'est quelque chose de fabuleux, ça prouve que c'est une chose fondamentale. Ça veut dire que notre odorat...
Je vous ai dit, c'est peut-être le premier.
Ah bah oui, mais une preuve pareille, ça devient très puissant. Donnez-moi un parfum. Là, j'ai envie de parler de musc, de choses plus animales.
Si vous voulez.
Donnez-moi un parfum qui vous fait...
On va voyager ailleurs.
Qui vous fait, oui, pour le musc en tout cas, qui vous fait vraiment penser à ce côté presque un peu trip. Il y a des parfums
un
comme ça.
Un peu trip.
Civette.
Civette, oui, civette. Mais la civette, pour un parfumeur, c'est pas si mauvais qu'on le dit. On ne veut pas passer pour des gens étranges, mais la civette, c'est une honnête chose chaude. C'est une espèce d'aura pour un parfum, même si la mauvaise civette sent mauvais. À cause de sa provenance.
Oui, justement, dites-le vous quand savez, même, parce qu'au fond, tout le monde ne connaît pas la civette dans ce voyage-là.
La civette, qui est un chat domestiqué, enfin domestiqué, non, parce que ça reste un chat, un animal sauvage, mais qui est tout de même en cagé, si je puis dire, pour la production précisément de sa substance odorante, possède deux glandes réparties dans le périnée de chaque côté de l'anus. Ces deux glandes émettent un liquide qui est en général et très probablement dû à l'attraction sexuelle, qui a un rapport avec l'activité sexuelle. Et là, naturellement, on a très tôt pensé que ça pouvait avoir quelque chose également chez l'homme. C'est la raison pour laquelle, dans les régions où elle vit, c'est-à-dire en Éthiopie, on a très vite prélevé à la petite cuillère quelques milligrammes de cette substance émise par cette glande qui est qu'on appelle une graisse. C'est un petit peu la consistance d'une graisse, un cirage ou quelque chose comme ça. Et très vite, on a commercialisé ce produit. Ça a servi
d'aphrodisiaque peut-être ?
Oui, mais d'aphrodisiaque dans le sens... Et on a voulu en s'en servir d'aphrodisiaque en l'incorporant au café, par exemple. Mais très vite, ça a été utilisé aussi en parfumerie parce que précisément, ça avait une odeur qui se rapproche de l'animal. Mais le problème, et c'est là que j'y viens, cette vraie civette a en fait une odeur qui s'apparente plus à la kératine, à la corne, à... Et il y a une anecdote que j'ai souvent racontée, mais je vais quand même la dire encore une fois, n'en déplaise à nos auditeurs. Quand j'ai démarré dans la parfumerie, mon maître en parfumerie m'a dit, tu sais, la civette, tu dois absolument la goûter. Parce que si elle est fraudée, elle peut sentir deux choses. Et il me dit, elle peut être fraudée avec la banane écrasée. Alors tout de suite, moi j'ai goûté. Et puis après, il a bien ri. Et puis il m'a dit, maintenant la deuxième fraude, ce sont les excréments d'enfants. Mais moi, j'avais déjà goûté. Ben le goût de médicaments à base de lécithine ou de choses comme ça. Mais la mauvaise civette, pourquoi on lui donne cette image de quelque chose d'épouvantable et d'affreux? C'est parce que dans les curetages à la petite cuillère, on prend un petit peu ce qu'il y a à côté.
C'est compris.
Ça fait du poids.
Oui.
Alors évidemment, une mauvaise civette sent ce que ça ne devrait pas sentir. Et alors à propos de voyage, puisque nous sommes dans les voyages, elle vient donc essentiellement d'Éthiopie, mais actuellement elle voyage. Les Russes sont en train d'essayer de l'acclimater. Vous voyez, on va dans la Russie asiatique, parce que là-bas ils essayent d'acclimater la civette. Ceci dit, cette fameuse civette, ça a servi très longtemps, ça c'est un autre voyage, à parfumer l'herbanico. Et c'est pour ça que certains magasins de tabac français s'appellent à la civette.
C'est exact, du fond du...
Le gros tabac gros cul des années de 14 était parfumé à la civette.
Partie des galas du fond de l'Éthiopie, on glisse maintenant vers l'Asie. On parlera peut-être tout à l'heure de musc, parce que pour moi aussi c'est de l'exotisme. Ben, c'est l'Asie, c'est vrai, c'est ce petit animal sympathique. Et on en parlera peut-être après quelques fonds. Il y a des sujets un peu tabous, mais nous avons parlé des zones, de ces zones olfactives. Il y a une couleur aussi. J'aime bien voir les choses. Je sais que ces zones-là sont jaunes. Je sais aussi que certaines races humaines ont des couleurs différente. Et on pense que si c'est plus foncé, on est peut-être plus fin de nez. Vous avez peut-être un jaune plus foncé que le mien, au fond du nez. Je sais en tout cas que les noirs ont un jaune très foncé comparativement au blanc. Là, on est en Éthiopie. Si on parlait de l'Asie elle-même tout à l'heure avec le musc, c'est parce que c'est quelque chose qui nous touche aussi très profondément. Et pourtant, personne ne sait ce que c'est que le musc. Mais si je dis une odeur musquée, peut-être que ça évoquera quelque chose. Oui.
Le musc, vous savez, qui vient des hauts plateaux de l'Himalaya, c'est donc cette petite chèvre qui ressemble à une petite chèvre avec qui a deux grandes dents qui pendent de la mâchoire.
Biche avec côté un peu lapin devant.
Oui, et des grandes dents qui servent simplement à gratter les cailloux parce que comme elle vit très haut, l'herbe est rare. Et cet animal, de tout temps, a été une source d'un produit extrêmement intéressant pour la parfumerie qui nous a été ramené, et là, parler du voyageur, par les expéditions de Marco Polo.
On est parti sur la grande route de la soie.
Cet animal, le mâle adulte, possède une glande qui est située sous le ventre, entre les parties génitales et le nombril. Cette glande, avec son méa, son conduit extérieur, sécrète un liquide brun-noirâtre, avec lequel il marque son territoire pour les femelles. Et ce liquide, encore une fois, on a pensé que ça pouvait être quelque chose, compte tenu de la finalité, que ça pouvait être quelque chose d'aphrodisiaque. Ça, c'est un petit peu comme la corne de rhinocéros, oui, ce que je veux dire. Alors, on s'est mis d'abord à tuer l'animal pour ça, et puis ensuite pour l'odeur. En fait, on a fait un certain massacre, parce que comme l'animal est très farouche, comme le chamois, on le tirait à longue distance. Et on a beaucoup tué de jeunes mâles, ou même des femelles, et ces jeunes mâles n'avaient pas de glande. C'est seulement le mâle adulte au moment où la glande, elle existe, elle préexiste chez le jeune, mais finalement elle n'est apparente que chez l'adulte. Et on a coutume, actuellement encore, de commercialiser ce produit, qui est, une glande s'appelle en fait dans le métier une poche de musc. Pourquoi, je ne sais pas, une poche. Et on vend les Chinois sont très friands de cette commercialisation, si je puis dire, parce que ça rapporte d'excellentes devises. Même si au plan écologique, il y a quand même quelque chose qui va pas. Ils vous rétorqueront que les Tibétains sont bien contents qu'on les leur enlève parce qu'ils massacrent leur culture. C'est un peu comme les sangliers chez nous, quoi. Eh bien, la commercialisation se fait actuellement donc de ces poches qui coûtent environ, c'est de l'ordre de 1200 à 1400 francs suisses, la poche, la glande. Et à l'intérieur, ça a coagulé avec la mort. Il y a une espèce de poudre ressemblant un peu à une semoule noirâtre et que l'on extrait, que l'on coupe. On coupe la poche, puis on met ça en infusion. On devrait dire exactement en teinture, parce que la différence de l'infusion et de la teinture, c'est que l'infusion est faite à chaud et la teinture est faite à froid. Et en fait, c'est en teinture dans de l'alcool pendant 5, 6, 7, 8 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à ce que l'alcool ait bien pris l'odeur du musc. Elle est utilisée dans les grands parfums de luxe parce que ça donne ce petit rien animal avec quelque chose de plus pour finaliser le parfum dans ce qu'il a peut-être de plus intime, de plus méconnu, c'est son côté un peu sensuel.
Si vous étiez un fin né de l'époque moghole, par exemple, je vous voyais là tout à l'heure assis avec un turban, vous étiez en train de préparer une recette de parfum, et puis ce parfum, il était en onguent, il était en pommade, il était peut-être déjà en liquide, il est arrêté, il est simplement mis dans une fiole, et puis il passe tout à coup dans la caravane, et vous la voyez partir depuis ce fond de l'Orient, vous étiez en Inde, ou pas très loin du Népal, du Tibet, et puis tout cela se met en route, rejoint la route de la soie, et puis vous traversez tout cela, vous arrivez du côté des grandes mers, vous arrivez finalement du côté de la Méditerranée, Damas, vous avez parlé de Chypre, il y a des mots comme ça qui sont un peu magiques, et tout à coup on pense au roi mage, enfin il y a tellement d'évocations sous l'idée du parfum. Moi, j'aime l'idée de Marco Polo. On l'a déjà raconté plusieurs fois dans cette émission. Long cours, c'est un grand voyage à la façon Marco Polo. C'est toujours cette magie qui fait qu'un produit comme le musc étant unique, étant la touche finale dont vous venez de parler, ça devient royal, ça devient grand. Et vous avez dit qu'il n'y avait que les parfums nobles qui pouvaient s'offrir ce genre de choses.
Contiennent du musc, mais du musc de synthèse, qui n'ont rien à y voir.
Faites-moi votre parfum comme si vous étiez le grand mogol, comme conclusion. Mais prenez tout votre temps, prenez vos onguents, placez-vous devant quelques dizaines ou quelques centaines de produits de l'époque pour imaginer le parfum moyenâgeux par excellence, avec l'idée du croisé. On est parti de là. L'idée de Damas,
la rose. Mais c'est déjà très civilisé, ce que vous demandez là.
Vous croyez ?
C'est déjà très civilisé. Le croisé, bon, ben, entendons-nous bien, mais par rapport au goût de l'Orient et de l'Extrême-Orient, en Chine par exemple, 5000 ans avant Jésus-Christ, le parfum le plus prisé était une gomme d'un arbre qui, son nom est tout de suite évocateur, ça s'appelle l'Asa fétida, et ça avait une odeur d'ail, d'oignon mélangé, c'était ce que les Chinoises préféraient. Alors, le fameux Mogol dont vous dites, il était déjà, lui, à l'époque de la rose, il était déjà très civilisé, beaucoup plus que... Enfin, civilisé dans le sens où nous voyons la chose, nous, avec nos yeux d'Européens.
Et nos nez d'Européens.
Il ne faut pas oublier
que c'est ça qui est intéressant.
À l'époque du grand Mogol, c'est, paraît-il, là qu'on a découvert... qu'a été découverte l'essence de rose. Il paraît qu'un jour... on avait, elle, une princesse avait mis des pétales de rose dans un petit ruisseau, et que ce petit ruisseau avait une évaporation latente à cause de la chaleur, et qu'elle avait vu tout d'un coup une espèce d'écume. Et cette écume, on s'est aperçu que c'était au fond l'huile essentielle de rose qui avait été tout bonnement entraînée à la vapeur d'eau, comme on fait pour l'extraire actuellement. Alors, si vous voulez, le parfum du grand Mogol jusqu'aux croisades, c'est la, à mon sens, je pense, la magnification. On a magnifié la rose. La rose, et ça a été, je crois, le premier grand parfum, je crois, qui est arrivé jusqu'à nous.
On la pique, on ferme la boucle, on se pique. Le voyage de la rose, le voyage du nez, tout un parfum.